qu'on connaît aujourd'hui est l'Israël qui est sorti d'Égypte. Je crois qu'il faut, peut-être que vous l'avez dans votre idée, mais il nous faut bien voir que ce n'était pas du tout la même chose. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, c'était quoi? C'était un ramassis d'esclaves, excusez-moi l'expression, un groupe, même pas un groupe, disons une troupe constituée d'esclaves, libérés. Aucune structure sociale, aucun point de ralliement, à part peut-être El Shaddai, Elohim, enfin le Dieu de leur père, mais beaucoup avaient oublié, beaucoup étaient tellement dans l'esclavage qu'ils avaient pratiquement tout perdu de leur notion d'être des enfants d'Abraham. Alors vous savez que on peut lire la Bible de différentes façons. La fois passée, je vous en avais parlé, différentes façons de lire la Bible. Et elles sont toutes très intéressantes, ces façons, et toutes complémentaires. Elles se nourrissent les unes les autres, tout ensemble, les unes des autres. La Bible peut être vue de manière politique, littérale, symbolique, prophétique, scientifique, psychologique, philosophique, archéologique, mystique, spirituelle, kabbalistique, prophétique, poétique, historique. C'est possible, mais si on ne la voit que d'une seule façon, à ce moment-là, on commence à donner à la Bible quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'elle est. Et vous savez qu'en grec, avoir une certaine originalité dans la lecture de la Bible, ça se dit hérésia. C'est-à-dire que nous sommes tous confrontés à une sorte d'hérésie dans notre façon de lire la Bible, parce que je vous confesse que je ne lis pas ma Bible de manière équilibrée. Il faudrait que j'arrive à la lire de manière équilibrée. Mais à chaque fois, j'aurai une tendance à voir plus un aspect que l'autre. Et à ce moment-là, je suis déjà dans l'hérésie. Donc, nous sommes tous des hérétiques. Hein? Non, mais enfin, je veux dire, nous ne voulons pas, en tout cas, voir la Bible d'un seul tenant. Nous essayons, je crois, hein, que nous essayons d'être honnêtes et de vouloir la lire de différentes façons. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi dans ce que nous a transmis Christiane ici? C'est une réalité. Elle nous saute aux yeux, cette réalité. On voit l'hostilité, on voit les gens qui essaient de s'entendre, les gens qui sont hostiles. On voit une réalité. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant. Comment dire? On pourrait dire que la Bible est authentique. Et nous voyons que la Bible est authentique et qu'elle nous donne, elle nous renvoie au travers de ces diapos un sentiment d'authenticité. Quand nous lisons la Bible, parfois certains la lisent en disant oui, c'est un symbole, ou c'est un conte de fées, ou alors même certains, même Luc Ferry par exemple, le philosophe, dit que la Bible ce serait merveilleux si c'était vrai. C'est-à-dire que la Bible donne la certitude du salut et d'une vie qui s'en va au-delà de la mort, de la première mort. Ça, c'est extraordinaire. Et Luc Ferry dit, oh, ce serait super si c'était vrai. C'est-à-dire qu'il n'y croit pas. Mais déjà, si vous voulez, il y a comme ces petits élancements. Et en tant que chrétiens, nous savons que même si la mort nous attrape, c'est pas fini. C'est encore extraordinaire parce que derrière cette mort, première mort, il n'y a pas la seconde mort. Tout intéressante, ces façons de lire la Bible. Mais méfions-nous. J'essaie de me méfier. La voir de manière scientifique, c'est bien. Mais à un moment donné, on est rattrapé par le spirituel ou par la bassesse de notre propre cœur et de notre péché qui est toujours là, même si on est sauvé. Et à chaque fois, on est obligé de revenir à Jésus et de lui dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce péché encore là. Nous avons pris un exemple, vous vous souvenez ? Où nous ayons vu qu'il n'y a pas de cloison étanche entre la Bible qui nous parle de réalité scientifique, hein, et la Bible qui nous parle de réalité spirituelle et de réalité symbolique. Et on avait pris cet exemple, le passage de la mer Rouge, parce qu'on sent là-dedans qu'il y a des réalités physiques, probablement la congélation par un système météorologique, par un événement météorologique particulier. Et puis, le passage dans la mer de ce peuple qui n'en est pas encore un, hein, qui est juste là, affolé parce qu'il y a les Égyptiens derrière, et qui s'en vont vers le pays promis. Mais où est-ce qu'il est? On ne sait pas encore. Enfin, on s'en doute. Enfin, ils s'en doutent un peu, mais ils ne savent pas trop. il s'est réellement passé dans des circonstances inouïes, mais en même temps, cette réalité matérielle est doublée d'une réalité symbolique et spirituelle. Et ce que nous avons vu, nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 10 d'une autre façon. Et c'est là que j'aimerais bien que nous en parlions aujourd'hui, c'est que de 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul parle à des gens qui ont vécu des choses plus ou moins scabreuses. Ce sont des Corinthiens, ce sont des gens qui habitent dans un port, et dans un port ouvert à toutes les cultures. Et dans ce port ouvert à toutes les cultures, il y a des gens qui étaient ouverts à tout. Du point de vue moral, du point de vue intellectuel, c'était très ouvert. À tel point qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, qui était dans la synagogue, se fait jeter de la synagogue. Et puis, juste à côté, il y a une université. Il y a une école, si vous voulez. Une école philosophique. Hein, et puis, tous ceux qui ont suivi Paul, ils sont sortis de la synagogue, s'en vont l'université qui est juste à côté. Et puis, comme ils font du bruit, parce que de temps en temps, ils parlent dans toutes les langues, parce que c'est un pays cosmopolite, la ville de Corinthe, tous les gens qui sont à la synagogue entendent ce qui se passe de l'autre côté, et que finalement, il y a un transfert, et que pratiquement toute la communauté juive s'en va de l'autre côté. Ils se convertissent tous. Mais il y avait des problèmes. Il y avait énormément de problèmes. Ils étaient libérés du poids de leur péché. Ils étaient libérés de leur conscience salie. Vous savez que dans 1 Corinthiens chapitre 6, vous verrez, à un moment donné, on ne va pas le lire, qu'il y en avait qui avaient vraiment des tares, qui avaient vraiment des problèmes, qui étaient vraiment des gens malades du cerveau et du comportement sexuel. Il y avait plein de gens. Ils étaient libérés. Et comme ils étaient libérés, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Maintenant qu'on est libre, on peut utiliser notre liberté parce que Dieu nous a libérés. Et ils oubliaient qu'ils étaient encore pécheurs, lavés par Dieu, purifiés par Dieu, qu'ils allaient vers un cheminement de pureté de plus en plus, de sanctification. Et que c'était pas fini, c'est pas parce qu'ils étaient sauvés par Jésus, par le sacrifice de Jésus, que maintenant ils pouvaient se permettre d'être désinvoltes. Exactement comme le peuple hébreu qui sort d'Égypte. Ils sont libérés de l'esclavage, libérés de Pharaon. Jamais ils auraient pu imaginer qu'ils pouvaient être libérés de la civilisation la plus solide et la plus costaud du monde de l'époque pour devenir libres. Puis maintenant qu'ils sont libres, allons-y, allez-y donc. Et puis, voilà que étant libre, on se permet d'être trop libre. Et en étant trop libre, on est esclave. C'est ce qui s'est passé. Et dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5, c'est ce que l'apôtre Paul rappelle à ces hommes de Corinthe, qui ne sont pas tous hébreux, mais dont certains sont hébreux, puisque c'était la synagogue qui avait transféré de l'autre côté, juste dans l'école d'à côté. Et il nous a dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer. 1 Corinthiens 10. Ils sont passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée. Dans la nuée et dans la mer. Tiens. Dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Vous imaginez les Corinthiens qui écoutent l'apôtre Paul et qui est en train de leur dire que, dans le temps passé, ça s'est passé comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ils savent très bien ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu Dieu, avec sa colère, qui a éradiqué, pas tout à fait, mais qui a éradiqué la notion de peuple d'Israël. Ils ont été virés du pays promis. Ils se sont retrouvés en captivité, et aussi encore aujourd'hui, il y en a encore qui sont dans des pays, ils veulent faire leur aliyah peut-être, mais certains ne peuvent pas, et certains ne savent même pas qu'ils sont juifs. Il nous est dit, ils ont mangé le même aliment spirituel, verset 3, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. C'est-à-dire que ces gens, l'apôtre Paul révèle que ces gens, il y avait déjà Jésus-Christ qui était là. Il y avait déjà Christ qui était là. Extraordinaire. Ça veut dire que, ça veut dire que, en fait, il y avait déjà la présence de l'Esprit de Dieu, là, là, juste au moment de la sortie d'Égypte. Ils ne sont pas encore un État avec des chars d'assaut, bon, avec la Knesset, hein, avec un parlement, avec des policiers, avec des choses comme ça. À l'époque, il y avait une autre structure sociale qui allait se mettre en place, mais elle n'était pas encore mise en place. Dans le psaume 95, versets 8 à 11, il nous est dit que Dieu est en colère. Alors, on a l'habitude de penser qu'on n'a pas le droit d'être en colère. C'est un péché d'être en colère. Donc, Dieu pêche. Ou alors, c'est moi qui vois mal. Il nous est dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et donc, Dieu est en colère. C'est que dire qu'il y a des saintes colères. Ça peut vous arriver aussi d'être en colère. Généralement, moi, je me suis mis en colère quand il ne fallait pas. Et puis quand Dieu, enfin, quand il aurait fallu que je me mette en colère, je ne m'y mettais pas. Et vous voyez, je pense que vous avez déjà dû vivre ce genre de choses. Mais la colère n'est pas forcément mauvaise. Il y a des moments, il faut se mettre en colère. Dieu lui-même se met en colère. Et il s'est mis en colère contre son peuple. Je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Vous savez ce que c'est, en tout cas, moi, je sais ce que c'est. Je dis, tu dis ceci. Mais c'est vrai que le Seigneur m'a délivré de choses extraordinaires, d'un esclavage définitif. Il m'a délivré, mais cette fois-ci, je crois plus à mon propre raisonnement qu'à celui que Dieu veut me donner. Quel est le raisonnement que Dieu veut me donner? Je vais essayer de traduire. Dieu me dit, ou Dieu te dit, fiston. Ou ma fille, hein. Si tu as constaté que je t'ai libéré un jour, ce n'est pas pour que tu retournes à l'esclavage. Donc, devant l'épreuve immédiate, celle qui est là devant toi, tu ne pourrais pas penser que ce que tu prends pour des géants devant toi, c'est juste ton manque de vision spirituelle. Donc, fais-moi confiance. Sauvé de l'Égypte, du pouvoir le plus puissant du monde de l'époque, sauvé de l'extermination de la Shoah, de la noyade, par un prodige météorologique, tu peux bien faire un petit effort de confiance en moi, non? Encore une fois. Hein? Vous voyez, c'est un peu ça qui se passe. On en avait parlé la fois passée, c'est-à-dire que devant le mur, on oublie tout ce qu'il y a eu comme exaucement de prière, comme exaucement de Dieu dans nos vies. Je suis comme ça. On est comme ça. Vous voyez, je traduis donc un peu dans mon langage ce que je ressens du message de Dieu lorsque je suis acculé devant un mur infranchissable. Lorsque tu es acculé devant un mur infranchissable, pourquoi Dieu permet-il le mur? Pour me faire souffrir? Non, pour nous ramener du mauvais usage de la liberté vers le bon. Pour que nous n'ayons pas trop confiance en nous. Dieu est extraordinaire. Il ne veut pas que nous soyons des moutons bêlants et sans initiative et sans fermeté. Bien sûr, il est le bon berger et nous sommes les brebis. Bon, on aurait tendance à dire, bon, faisons les moutons. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il veut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Oui, ça paraît peut-être hérétique de dire qu'il faut avoir confiance en soi quand on est chrétien. Les circonstances de la vie m'ont obligé à avoir confiance en moi. Mes parents m'ont donné confiance en moi, mais finalement, quand je vois un peu l'éducation qu'ils m'ont donnée, moi, hein, personnellement, je manquais de confiance en moi. Parce qu'en tant que chrétien, il y a certains schémas que l'on apprend et qui sont spirituels, que l'on estime spirituels. Dieu veut que nous ayons confiance en nous. Mais attention, pas en nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il ne veut pas que nous soyons des moutons bêlants et sans initiative et sans fermeté. Il veut que nous ayons confiance en nous-mêmes, mais attention, pas en nous-mêmes, moi. C'est pas la même chose. J'ai une certaine confiance en moi parce que je fais confiance en Dieu d'abord. Voilà ce qui se passe. Et je vais vous donner un exemple. Vous le connaissez, un exemple. Un jeune homme sans prétention, aucune prétention, va chercher 5 pierres polies dans un torrent. Il les met dans son sac de berger et dans sa poche. Un stock et sa poche. Puis, la fronde à la main, il s'avance vers le géant. Est-ce qu'il avait confiance en lui ? Oui. Mais pas en lui. En lui, lui-même. Il avait confiance en lui. Il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait confiance en lui que parce qu'il faisait confiance en lui. Voilà. Évidemment, dans le micro, c'est difficile de montrer que j'ai mis le doigt vers le haut, c'est-à-dire vers Dieu. Confiance en lui, majuscule. 1 Samuel 17, 40. Vous voyez le jeu de mots, hein, c'est ce qui se passe dans 1 Samuel 17, 40. David, tout petit, complexé, il devrait l'être en tant que petit jeune chrétien, vous voyez, enfin jeune juif. Oh, il y a les soldats, il y a même ses frères qui disent qu'il est venu pour faire. Il n'est pas dans l'ambiance qui lui permettrait de pouvoir avoir confiance en lui, mais pourtant il a confiance en lui parce qu'il a confiance en Dieu. Donc les deux ne sont pas incompatibles. On aurait tendance, nous, à penser que ça fait vraiment très spirituel que d'avoir confiance en Dieu et de ne pas du tout avoir confiance en soi. Non. Il y a un équilibre. Donc Dieu permet des murs dans nos vies qui finalement sont quand même franchissables contre toute attente. Après, nous allons lire une autre histoire de géant. Mais d'abord, nous allons rappeler quelques actions de Dieu sur ce peuple fraîchement établi. C'est un peuple qui est fraîchement établi, mais pas encore construit. Et dans le livre des Nombres, on constate qu'avant d'arriver aux abords du futur pays d'Israël, ils sont sortis d'Égypte depuis un an, un mois, un jour. Vous voyez ça dans Nombres, au chapitre 1, au verset 1. Un an, un mois, un jour. Et ça faisait 10 mois qu'ils étaient en train, non pas de croupir au mont Sinaï, mais d'être au mont Sinaï, c'est ce qu'il nous est dit dans Exode au chapitre 19. Donc trois mois de sortie d'Égypte. Dans ce laps de temps, il s'est passé pas mal de choses. Donc la Pâque en Égypte, temps zéro, jusqu'au mont Sinaï, 3 mois. Et entre les deux, il y a eu l'Égypte qui attaque le peuple qui se trouve coincé sur la mer Rouge, le passage de la mer Rouge, et puis les eaux de Élim et de Massa, je crois. Hein? Donc, des premières révoltes. Et ensuite, le Sinaï. Et pendant dix mois, ils vont rester là. Ils font un recensement. Enfin, c'est Dieu qui le fait, qui leur demande de le faire. Ils font un recensement, un premier rachat des premiers-nés. Et dans Nombre, on voit l'histoire du rachat des premiers-nés. Ceux de la tribu de... Pourtant, le rachat des premiers-nés s'est fait en Égypte. Il y a eu l'agneau pascal qui, dans chaque maison, était immolé pour les premiers-nés de l'Égypte, enfin, d'Israël, mais aussi de tous les Égyptiens qui l'auraient voulu. Hein. Il n'y avait pas de ségrégation. S'ils avaient foi en Dieu, eh bien, ils étaient sauvés en même temps. Et d'ailleurs, on sait que il nous est dit un endroit que le ramassis de ceux qui étaient montés d'Égypte avec Israël se mit à grogner et à murmurer. Donc il y avait aussi d'autres peuples qui sont montés en dehors d'Égypte et qui ont bénéficié du salut de Dieu parce qu'ils avaient probablement, je pense, hein, fait aussi la Pâque en Égypte. Alors ils font un recensement. Et le recensement, c'est pour le rachat des premiers-nés. Ceux de la tribu des Lévi deviennent propriété de Dieu à la place de tous les premiers-nés. Vous voyez ça dans Nombre au chapitre 3, verset 43. Et on s'aperçoit qu'il y a combien de premiers-nés en Israël à ce moment-là ? 22 273. Pas 74 ni 72, 22 273. Et puis voilà qu'il y a 22 000 Lévites tout rond. Il manque 273 personnes. Enfin, 273 Lévites pour... pour être substitués aux 273 qui 273 premiers-nés qui n'ont pas de pendant lévitique, si vous voulez. Bon, vous allez me dire, bon, on s'en fiche, quoi, je veux dire, hein, à quelques pourcentages près, c'est bon, quoi. Hein. Eh bien, non. Dieu dit une chose, il dit, pour les 273, il faudra payer 5 cycles de l'argent du sanctuaire, du cycle du sanctuaire, et pour ces 273 qui manquent, on fera aussi l'expiation d'une autre façon. C'est dans Nombre 3, verset 47. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous montrer que c'était très sérieux, que Dieu était maintenant dans une situation de très sérieux. C'est le rachat du premier-né, c'est le rachat de l'Égypte. Si un agneau a été immolé dans chaque maison pour sauver tous les premiers-nés, un rappel est établi par Dieu ici. Tous les Lévites sont propriété de Dieu. Ils se substituent, ils restent vivants, hein, heureusement, ils restent vivants pour sauver tous les premiers-nés d'Israël. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose, hein? Ça ressemble bizarrement à Jésus mort et ressuscité. Il est présent, vivant, et même si on ne le voit pas, on sait qu'il est vivant et qu'il nous défend. Et à cette époque, les gens qui passaient voir, qui voyaient passer un Lévite, tout de suite se disaient, oui, lui, il fait partie, il est le symbole, il est une réalité, mais il est également le symbole de ceux qui se substituent à nos premiers-nés. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, 1 Corinthiens 10. C'est-à-dire qu'ils avaient en permanence le souvenir de la libération de l'esclavage et de la mort des premiers-nés. C'était très sérieux. C'était presque tatillon, j'oserais dire. On prend Dieu au sérieux, même s'il est plus proche de nous maintenant. Il est proche parce que les Lévites qui sont là appartiennent à Dieu, et ils sont Dieu manifesté. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais c'est un peu ça, vous voyez. On le prend au sérieux, même si on est tout près. Et ça, spirituellement, pour nous, c'est important aussi. Dieu est près de nous, il est notre intime, on est en relation avec lui, mais ce n'est pas notre copain, c'est quelque chose de très sérieux. Pas de désinvolture, mais pas non plus de rigueur implacable. Une joie d'être dans la grâce de Dieu, d'être dans la nuée, d'être nourri par la certitude entretenue par Dieu de la foi en Dieu. Dieu maintenant crée des supports de foi, mais il crée des supports de foi tangibles. On est dans la réalité et en même temps on est dans le symbole. On ne peut pas tout détailler ces supports maintenant, mais je vais essayer de vous les lister rapidement. Il y a l'organisation du camp. Il y a la fonction des Lévites, le rachat des premiers-nés, hein, on vient de le voir, les règlements sur la pureté, le vol, la jalousie, la convoitise, tout ça c'est sérieusement organisé. Le naziréat, vous vous souvenez du naziréat, c'est-à-dire se consacrer à Dieu, on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas se faire des entailles, être sadomaso, vous voyez, hein. Non, parce que vous savez, il y avait des drôles de coutumes dans l'Antiquité pour se consacrer à sa divinité. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Dieu donne des règles. C'est quelqu'un de présent, Dieu, dans la nuée, quelqu'un de proche, mais on ne fait pas n'importe quoi. J'en reviens à ce que je vous disais sur 1 Corinthiens 10. Ils ont tous été sauvés, ils ont tous eu conscience d'être libérés de leurs péchés, mais ils étaient devenus un peu désinvoltes, un petit peu space, comme on dirait aujourd'hui. Ils sont libres. Des hommes et des femmes libres, mais ce n'est pas une raison pour manquer de maîtrise. Et c'est le problème des Corinthiens. Maîtrise sexuelle, maîtrise de l'orgueil, maîtrise de beaucoup de choses. La maîtrise de soi est également une forme de liberté, sinon on devient esclave de soi-même. Donc Dieu a eu le temps de cadrer les choses bien avant l'approche du pays promis. 10 mois au Sinaï, ils ne sont pas là à se tourner les pouces. Vous imaginez bien qu'il s'est passé des choses, ce genre de choses. Il y a l'offrande des 12 princes aussi. Vous savez que les 12 princes qui représentent les 12 tribus d'Israël, en fait non, les 11, parce qu'il y a Éphraïm et Manassé qui représentent Joseph, et Lévi appartient déjà à Dieu. Donc, mais il y a quand même 12 princes, hein, puisque Joseph, si vous voulez, est divisé en 2, Éphraïm, Manassé, Lévi n'est pas compté dedans, et ça fait donc 12. l'agneau immolé pour le péché. Pourquoi ? Parce que cette offrande des 12 princes, c'est pour l'autel. Et le centre du système israélite, c'est quoi ? C'est l'autel. Et sur l'autel, c'est ceux qui payent pour la vie d'autrui. Et ce sont ces fameux animaux qui n'ont rien demandé à personne, qui meurent pour la vie de chaque Hébreu. L'agneau immolé pour le péché, l'agneau qui nous libère pour nous ramener vers Dieu. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Toutes ces choses évoquent pour nous des symboles spirituels. La communion avec Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Il y avait aussi les lampes, le chandelier. Le chandelier, ça correspond à quoi ? Ça correspond à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Hein, c'est dans Jean chapitre 1. Et il y avait donc un symbole de lumière qui était dans le temple. La consécration des Lévites. Il y avait eu le recensement des Lévites, la fonction des Lévites, et ensuite la consécration des Lévites. Oh, c'était pas vraiment désinvolte, hein, tout cela. C'était vraiment structuré. Hein. Et Dieu mettait des jalons. Non pas pour les rendre esclaves, mais pour les rendre libres. La nuée. Et cette nuée, elle avait quelque chose de bizarre, cette nuée. On sait qu'elle était lumineuse la nuit, et le jour, elle était probablement lumineuse aussi, mais on ne voyait pas trop cette luminosité, on voyait plutôt un nuage. Et c'était un symbole d'obéissance, parce que quand la nuée s'est levée, hop, tout le monde devait se mettre en ordre de marche pour partir. Mais est-ce qu'avec la nuée, il fallait que je passe devant, que non, c'est ta tribu, non, ça ne se passait pas comme ça. Mais à chaque fois que la nuée se levait et qu'elle s'abaissait, tout le monde était prêt à obéir et avancer. Les trompettes d'argent, il y en avait deux. C'était la tribu d'Aaron, il y en avait deux qui étaient préposés aux trompettes d'argent. Et ces trompettes, eh bien, il fallait en sonner pour telle chose, à deux pour autre chose, de telle manière pour autre chose. Quand on démarrait, eh bien, il y avait la nuée qui s'était levée, mais il y avait aussi les trompettes qui donnaient le signal de départ. J'imagine bien, c'est pas marqué, que le gars qui sonnait la trompette, il voyait le premier Gershom qui partait, après il faisait un autre pour le deuxième camp, et puis on sait que l'Arche d'Alliance allait sur le devant avec toutes les tribus lévitiques, et qu'ensuite il y avait le peuple. Et à chaque fois qu'il y avait un camp qui était sorti, il y avait un coup de trompette pour le suivant. C'était carré. Tout un protocole pour les sonneries. Sonner avec éclat, avec une trompette ou deux, selon le code. Nombre chapitre 10. Malgré tout cela, même avant d'arriver, en vue du pays promis, il y aura encore d'autres révoltes, et non des moindres. Même Marie, la grande sœur, celle qui a permis tout ça. La grande sœur, celle qui a introduit Moïse presque auprès de la fille de Pharaon à l'époque. Vous vous souvenez ? Ah, quelqu'un. Il lui arrive un problème, vous savez. Donc, même avant qu'ils arrivent, tout ça ne leur permette pas de faire confiance à Dieu et de se sentir en liberté avec Dieu. Et ils ont des murmures. On peut comprendre, parce que moi je comprends, parce que moi aussi je murmure. En tant que chrétien, ça m'arrive. Puis ils arrivent en face du pays promis. Donc d'un groupe d'esclaves, sans beaucoup de cohérence, Dieu en a fait une nation en un temps record. 12 espions. 12. Chamois, Caleb, Jigwal, Josué, Shaphat, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Sétour, Nashbi et Gewel. Quel prestige pour tous ces 12 espions d'aller visiter le pays promis. Ils commencent par le désert de Tsin, au sud, par là, jusqu'à Hamath, du côté de l'Hermon. Et ils voient des choses extraordinaires, même qu'on a vu, hein, je ne sais plus, bon bref, ils se mettent à deux pour faire revenir une grappe de raisin, c'est pareil, extraordinaire. Hein. Et on voit dans Nombre, chapitre 13, verset 21, ce qui se passe. Et si vous voulez, on va le prendre. Nombre 13, 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Achiman, Sheshai et Talmai, enfants d'Anak. Au verset 27, il nous est dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ensuite, ils ont fait leur périple en tant qu'espion. Et puis ils sont revenus et ils ont fait leur rapport. Voici qui racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Tu nous as envoyés. Ça aurait pu être l'Éternel qui les a envoyés, mais c'est toi qui les a envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. En réalité. Mais le peuple qui habite ce pays était puissant et les villes sont fortifiées. Plus puissantes que l'Égypte ? Peut-être pas, mais bon, puissant. Très grande. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Hittites, quoi. Hein. Les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Donc, on sent bien que le rapport a été donné. Vous savez ce qu'on fait quand on fait des rapports. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre boulot de faire des rapports. Vous essayez d'être le plus intègre possible, de dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si vous êtes témoin dans un système de justice, dans un tribunal, on ne vous demande pas vos impressions, on vous dit, vous avez vu, point. Voilà. Caleb fit taire le peuple, il murmurait contre Moïse, verset 30, il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Là, ils y vont fort. « Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Là aussi, ils y vont fort. Il y avait les enfants d'Anak, et il y en avait d'autres. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. On voit que c'est un rapport orienté. On dirait aujourd'hui, quand on fait un sondage hein, d'opinion politique, etc., en général, on n'est jamais trop sûr de ce qui s'est dit et on a du mal à vraiment croire. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Nombre 14, versets 1 à 12. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Mais pourquoi on n'est pas mort en Égypte ? Pourquoi ne sommes pas morts en Égypte ? Ça aurait été bien mieux de mourir en Égypte. Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? » Bon allez, pas en Égypte, allez d'accord. On est sorti, mais qu'on serait mort dans ce désert, ce serait déjà mieux que de se trouver devant une impasse terrible comme celle-là, ce mur infranchissable. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux que nous, pour nous, de retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre, on va nommer un chef. Et on retourne en Égypte. Ils étaient vraiment conditionnés, pas de problème. Ils avaient eu une vision des choses qui était assez claire. Hein. Et versets 34 à 36 de Nombre 14, il nous est dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel à l'instant. Sauf Caleb et Josué, bien sûr. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Dramatique. C'est dramatique. Et on voit un Dieu qui, compatissant, qui est lent à la colère et qui est riche en bonté, qui pardonne l'iniquité des pères sur leurs enfants, hein, jusqu'à la millième génération, mais qui ne tient pas le pécheur pour innocent, on le voit en colère. Et il est tellement en colère qu'il y a 10 personnes qui meurent sur pied, sauf les deux. Alors, je ne sais pas, évidemment, dans un contexte du 21e siècle d'occidental bien pensant, on va dire, mais c'est une injustice terrible, ça, ce que fait Dieu. Alors, essayons de réfléchir, et on se dit, voilà, n'oublions pas qu'ils ont été sortis d'Égypte, qu'ils sont passés la mer Rouge, et qu'ils ont eu des preuves de la puissance de Dieu sur l'état le plus policé et le plus militaire et le plus puissant du monde de l'époque, et que Dieu avait encore en plus la puissance de démonter la puissance d'une mer pour faire passer son peuple à l'intérieur. Je conçois qu'il soit logique que devant un mur, notre première réaction, c'est de dire non, Dieu pourra plus faire. Il a fait, c'est vrai, j'ai la foi en lui, il a pu faire. Mais cette fois-là, non, c'est pas possible. Voilà. Et vous comprenez, c'est là que Dieu nous attend, qu'il m'attend. Alors c'est quand même dangereux de vous le dire là devant vous, parce que si un jour je me trouve devant un mur que j'arriverai même pas à exprimer dans ma vie, dans les situations que je vais pouvoir passer dans l'avenir, j'en sais rien, peut-être que je serai comme les Israélites, moi. Hein. Mais vous voyez, je ne veux pas dire que je ferai mieux qu'eux, hein, mais on voit que Dieu veut nous amener à comprendre qu'il est capable de tout, et que devant des géants, il est capable de nous faire vainqueurs. Je jurai dans ma colère, psaume 95, versets 8 à 11, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est parce que on ne se moque pas de Dieu. Et on n'est pas désinvolte lorsqu'on a été libéré et qu'on n'est plus esclave. Ça ne veut pas dire qu'on va mériter son salut. Dieu nous a donné notre salut, il est acquis, on n'en parle plus, c'est fini. On est vraiment dans la liberté des enfants de Dieu. Mais, malheureusement, les Corinthiens en sont un exemple, les Galates aussi, et puis d'autres encore, nous montrent que nous sommes de la nature, d'une nature telle que notre liberté peut servir à notre esclavage. Dieu nous a libérés d'un esclavage et nous serions capables de retourner dans un autre esclavage. Vous vous souvenez des Galates qui sont très impressionnés par le rituel judaïsant et qui veulent retourner à ça plutôt que d'être dans la liberté des enfants de Dieu. Vous connaissez les Corinthiens qui sont prêts à beaucoup de choses et pour lesquels nous avons vu, l'apôtre Paul leur dit « Ignorez-vous que nos pères qui ont été sous la nuée et dans la mer, eh bien, ils ont été libérés et que il y a quelque chose qui les suivait. Ils n'étaient pas seuls. Il y avait Dieu qui était avec eux et en plus qui avait structuré leur pays. Il y avait pas leur pays, mais leur nation qui en avait fait un peuple. Et Dieu veut nous structurer nous aussi. Dieu veut me structurer moi. Il veut que mes déséquilibres internes, psychologiques, peut-être même physiques, etc. Il veut construire. C'est pas parce que j'ai été libéré une fois que j'ai plus besoin de la liberté de Dieu. Hébreux. Chapitre 4, verset 8, il nous est dit, si Josué avait donné au peuple de Dieu le repos, parce que après les 40 ans, vous savez ce qui s'est passé, il se retrouve de nouveau près du pays à attaquer, et ce pays que Dieu leur demande d'éradiquer les habitants, hein, c'est aussi difficile pour des Occidentaux de penser que Dieu juge un peuple au point de le détruire. Mais c'est ce qui s'est passé. Et d'utiliser un autre peuple pour détruire un peuple, c'est ce qui s'est passé. Si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas d'un autre jour de repos. C'est ce qui nous est dit dans Hébreux, au chapitre 4 et au verset 8. Car si Josué avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est-à-dire que quand les Hébreux se retrouvent en Israël et qu'ils ont trouvé le repos physique, ils n'ont pas forcément trouvé le repos spirituel. On le sait, puisqu'il s'est passé plein de choses. Et en fait, Dieu, après ce repos physique, après ce repos d'être dans un pays qui est le leur, où ils ont récupéré toutes les structures et toutes les, comment dire, toutes les constructions qui avaient été faites par d'autres dans ce pays, eh bien, au lieu de jouir de cette liberté que Dieu leur a donnée, ils se sont retrouvés dans l'esclavage de leur péché. Donc, il nous est dit, il y a donc un repos, verset 9 du chapitre 4 des Hébreux, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Si vous êtes dans un endroit où vous êtes maintenant libre, ou si vous avez une gestion qui vous est donnée de vos biens, et que vous commencez à vivre dans l'opulence et dans la tranquillité, vous savez ce qui se passe, en général, on oublie d'où on vient. Et je pense que le chrétien peut l'oublier. Alors, ça s'adresse à moi aussi. Et il nous est dit qu'il y a des gens qui peuvent même presque perdre leur salut. Et que Dieu ne permettra pas qu'ils perdent leur salut. Et il nous est dit, il y a un verset, que si une terre qui est abreuvée et qui devrait donner du fruit n'en donne pas, elle peut se retrouver à un moment donné à être presque maudite, près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu, c'est-à-dire qu'il se passe à un moment donné, il y a un jugement qui tombe sur la terre en question, mais la terre n'est pas maudite. Elle a presque été maudite, mais Dieu a permis qu'elle ne soit pas maudite. Alors, pour ces Hébreux, ces pauvres Hébreux qui sont morts dans le désert et qui avaient plus de 20 ans, ça s'est mal passé, parce qu'ils étaient conscients, parce qu'ils étaient... Ils étaient considérés comme lucides sur ce qu'ils faisaient, et il n'y en a eu que quelques-uns qui sont, eux, restés vivants lorsqu'ils ont, 40 ans plus tard, envahi le pays d'Israël promis. Si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas d'un autre repos. Ça me parle à moi, ça me dit une chose, si je suis chrétien, je le suis. Si j'ai le repos et que je goûte le repos de Dieu. Ce repos est un repos de travail, un repos dans lequel on voit que Dieu, dans ce repos, nous met face à nos murs, nos propres murs, que l'on se crée parfois nous-mêmes, mais parfois ce n'est pas nous, et que vers ce mur où nous allons et où nous allons nous planter, Dieu nous attend de nous que nous ayons la foi de dire « Si tu m'as sauvé de ça, tu me sauveras de ça et tu me feras encore avancer. » Mais si je commence à murmurer et de dire, écoute Seigneur, là il y en a marre, je ne veux plus, je te suis jusque là, mais pas plus loin, alors là on se met dans une situation que Dieu réprouve, mais il nous laisse dedans, on est libre. Et puis on finira notre petit bout de chemin avec Dieu jusqu'à notre mort terrestre. Mais Dieu aurait voulu beaucoup plus pour nous. Il voudrait qu'on arrive à casser tous ces murs. Les murs du péché, de toutes ses formes. La jalousie, les inimitiés, le manque de foi, ce genre de choses, qui ne sont pas pour nous des preuves ou des garants de la liberté et du salut de Dieu, puisque ce salut nous est déjà donné. Mais c'est que Dieu veut aller plus loin que simplement ce salut qui avait été donné à l'Égypte, en Égypte. Ce salut qui leur a permis de sortir d'Égypte, Dieu n'a pas fait simplement que sortir un ramassis, une troupe d'esclaves. Il a dit, bon, mais écoutez, maintenant, vous êtes sauvés, vous pouvez vous égayer dans la nature, vous pouvez vaquer à vos occupations. Non, Dieu a pris en charge ce peuple Et il l'a pris tellement en charge qu'il l'a aimé, il l'a toujours aimé, il l'aime toujours encore. Et il avait voulu en faire une nation structurée. Et il veut développer ce peuple pour qu'il arrive à la perfection. Et c'est ce qui se passe aussi pour nous, pour moi. C'est-à-dire que cette réalité que nous voyons dans la Bible, tangible, réelle, historique, psychologique, et puis symbolique, enfin toutes ces choses dont je vous ai parlé, je retrouve ça dans ces symboles dans ma propre vie. C'est-à-dire que dans votre propre vie, c'est-à-dire que nous sommes là à nous dire, ben oui, ce que nous voyons de symbolique et de réel pour le peuple d'Israël, c'est à peu près la même chose qui doit se passer pour moi. Alors il nous est dit, verset 14 du chapitre 8, verset 14 du chapitre 4 des Hébreux. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, ce grand souverain sacrificateur qui a fait plus que ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, Dieu s'est incarné lui-même et il est venu sur terre, excusez-moi du peu, et il a payé de sa vie pour mon péché personnel, et on peut le dire pour le monde entier, pour personnellement, pour chacun dans le monde entier. Ce souverain sacrificateur, verset 14, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Être ferme dans la foi, c'est que quand je suis dans un mur, je suis presque collé au mur, je ne me laisse pas perdre ma confiance en Dieu à cause de ce mur qui est devant moi. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, lui, il a eu plein de murs. Il a durci son front comme un caillou, nous est-il dit, et il a tout gagné. Il a tout vaincu. Donc, il peut compatir à nos faiblesses. Hein. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, on s'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, à chaque fois, n'oublions pas que nous sommes capables d'être comme les Hébreux qui, devant les enfants d'Anak, a perdu toute notion de réalité. Il avait la réalité devant lui, mais elle s'est imposée à son esprit, à chacun personnellement, en regardant les enfants d'Anak. Enfin, non, c'est vrai qu'il ne les avait pas vus, c'est les espions qui les avaient vus. Et le rapport de ces espions, ils ont eu une foi complète dans ce rapport qui était biaisé, et ils ont oublié les réalités qu'ils avaient vécues auparavant. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide et m'aide à être ainsi. Parce que dans nos vies, on aura toujours des murs. Jusqu'à notre mort qui sera notre dernier mur. La première mort, je dis, hein, qui sera notre dernier mur. Mais je m'encourage à faire comme Josué et Caleb. Et ils étaient 2 sur 12. La majorité, c'était pas la majorité absolue. Donc la démocratie, c'est pas top quand même. Parce que la démocratie, ça aurait été justement Josué et Caleb tout seuls, face à ces 10 autres qui ont dénigré le projet de Dieu. Est-ce que c'est un symbolique, c'est 2 pour 12? J'en sais rien. Mais en tout cas, soyons nous, dans notre vie spirituelle, comme Josué et Caleb. Voilà. Si vous permettez, je vais prier maintenant pour terminer par la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, après avoir été sauvé par ton Fils bien-aimé de l'extermination d'Égypte, de l'extermination que toi tu vas faire un jour sur ce monde, nous voulons te remercier de ce que tu veux nous amener dans un pays promis. Tu veux nous amener à la maturité spirituelle. Tu veux nous amener à une conception de la liberté qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la nôtre, d'une liberté désinvolte et absolue, mais d'une liberté où nous savons nous maîtriser et nous savons avancer même s'il y a des murs dans nos vies. Et Seigneur, nous savons que nous pouvons avoir un regard de foi sur ces murs en disant « Seigneur, tu peux les faire tomber, comme tu as fait tomber ceux de Jéricho. » Et Jéricho est vraiment bien, Seigneur, le symbole de tout ce que tu veux nous apporter, c'est-à-dire une victoire sur nous-mêmes et une victoire sur ce péché et cette situation de nos vies qui nous empêche d'être toujours plus près de toi. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Au nom de ton Fils. Amen.